Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci. « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum », ce qui signifie « « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés, mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jaïr fait l'expérience que l'on peut faire très souvent dans nos vies, soit à l'occasion de décès, soit à l'occasion de maladies, soit à l'occasion de souffrances, de difficultés. Il fait l'expérience d'être à toute extrémité, d'arriver au bout, l'expérience de ses limites. Hein. Et c'est souvent ces expériences qui nous arrivent, parce que je crois que ça arrive dans toutes les vies, eh bien, qui sont des occasions de se tourner vers plus grand que soi. On dit souvent qu'il y a deux occasions dans la vie où peut-être on se réveille un peu et on se tourne vers le Seigneur. C'est l'amour, avec les mariages, l'expérience de, aussi des grandes joies, l'expérience du bonheur, où on se tourne vers le Seigneur parce qu'on sent bien que ce bonheur nous renvoie à quelque chose de plus grand. Et puis aussi l'expérience de la mort, hein, l'expérience de la finitude. Et c'est l'expérience que fait Jaïr là, et il se tourne vers... par intuition, vers celui qui est la vie, et il lui demande bien sûr de guérir sa fille. Et alors ce qui est intéressant de constater, c'est l'attitude de Jaïr d'une part, et l'attitude de la foule d'autre part. Voilà. Jaïr se tourne vers Jésus, lui dit « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Mais je sais pas comment, impose-lui les mains, mais Seigneur, je te fais confiance. Une belle démarche de foi. Une belle démarche de foi qui est un bel exemple quand nous sommes face à notre finitude, à nos limites, voilà, qu'on est au pied du mur. Alors ça arrive d'une manière ou d'une autre, parce que la mort, on la rencontre dans nos vies, pas seulement quand le cœur s'arrête, mais on la rencontre aussi chaque fois qu'il y a des souffrances, chaque fois qu'il y a des maladies, chaque fois qu'on est dans une forme de solitude, tout ça, ce sont des petites morts qu'on rencontre, qu'on traverse, voilà. Et puis d'autre part, il y a l'attitude de la foule. La foule qui, elle, est beaucoup plus, elle a des idées bien plus arrêtées sur la manière dont doit procéder Jésus. Et quand la foule constate que manifestement ça n'a pas si bien marché que ça parce que la fille est morte, eh bien on a cette réplique « À quoi bon déranger le maître ?» Vous voyez ? Et là, on voit bien que dans l'esprit de la foule, et parfois ça nous renvoie à nous-mêmes. on est encore les maîtres du navire. On a un souci, on a une souffrance, on a un décès qu'on ne comprend pas, parce que les décès, on les comprend rarement. On a une difficulté dont on ne perçoit pas le sens, qui est absurde, et pourquoi ça arrive à nous. Et puis on garde encore les commandes, c'est-à-dire qu'on a nos petites idées quand même. Alors on fait appel à Jésus, comme on ferait appel au médecin, comme on ferait appel au psychiatre, comme on ferait appel, je sais pas, à d'autres religiosités, comme on ferait appel à un guérisseur, comme on ferait appel à la méditation, vous voyez. Et en fait, le problème dans l'attitude de la foule, c'est que Jésus, c'est un pion parmi tant d'autres, il est interchangeable. Bon, on a essayé Jésus, ça n'a pas marché. Je garde les commandes du navire, surtout. C'est moi qui vais encore gérer ma crise, ma difficulté, ma souffrance. C'est avec mon point de vue, je garde mon point de vue sur ce que je suis en train de vivre. Voilà, la foule, elle remet pas encore les commandes au Seigneur. Jaïr, oui, a fait un acte de foi, mais la foule... voilà, donc forcément, ça n'a pas marché avec Jésus, au moins en apparence. Donc, quoi bon déranger le maître, on va passer à autre chose, quoi. On va passer à autre chose, on va essayer autre chose, ça n'a pas marché. Est-ce que nous, face à nos difficultés, nos incompréhensions, parfois, nos souffrances, on n'est pas un peu comme ça à garder les commandes du navire, à tenter la prière, mais si la prière, elle va dans mon sens. J'ai planifié un truc, si ça va dans mon sens, ok. Voilà, on va essayer la prière, Seigneur, guéris-le. Ça n'a pas marché, donc on va essayer autre chose. Et Jésus, là, il reprend face à cette attitude de la foule, qui d'ailleurs a deux conséquences, la tristesse, les pleurs, la crainte. Voilà, on n'est pas en paix. Quand on maîtrise sa vie, on n'est pas en paix. Quand on a les commandes de notre vie, on n'est pas en paix. Et la deuxième conséquence que ça a, c'est l'agitation. Ça s'agite dans tous les sens. Ce qui montre bien aussi qu'on n'est pas dans une grande sérénité, une grande paix profonde. Ça s'agite. On essaye, on tente à droite, à gauche, on tente des solutions un petit peu, des solutions humaines, à notre mesure, dans les limites de nos horizons humaines. Voilà. On tente des solutions. On s'agite. On s'agite comme des orphelins qui n'ont pas de père dans le ciel. Ça arrive souvent, ça. Face à ses propres difficultés, ses propres souffrances, ses propres douleurs, ses blessures. Avant de s'en remettre au Seigneur, je vais y venir, c'est la réplique du Seigneur après, on s'agite dans tous les sens, comme si on allait résoudre nos problèmes tout seul, comme si on allait gérer nous-mêmes nos propres crises existentielles. Rien de très probant pour l'instant, et Jésus a cette phrase extraordinaire, ne crains pas, crois seulement, l'abandon. C'est un jour quelqu'un comme ça qui vient faire un petit peu le point sur sa vie, mais c'était à une époque un peu douloureuse de sa vie, vient voir Mère Teresa, lui dit voilà, c'est le désastre, familial, niveau travail, etc. Et Mère Teresa lui a trouvé simplement comme réplique, prier davantage le matin. Alors quand on a envie peut-être d'avoir autre chose, mais finalement est-ce que c'est pas l'invitation la plus fondamentale à se mettre face au Seigneur dans un acte de foi, à lui dire « Seigneur, voilà, je te remets les commandes de ma vie. Ne crains pas, crois seulement. » Et alors, la fille est guérie. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Pourquoi on nous dit qu'elle a 12 ans? Tiens, c'est étrange. On aurait pu nous dire qu'elle a 6 ans, 7 ans, 35 ans, 12 ans. 12, ça revient souvent dans l'Écriture. 12, dans l'Apocalypse. Il y a les 12 apôtres, bien sûr. 12, c'est le chiffre de la plénitude, les cités de l'Apocalypse, les portes de Jérusalem, tout ça. C'est le chiffre de l'accomplissement. Donc cette fille est guérie, elle a 12 ans. Cette fille est vivante, elle a 12 ans. Avant 12 ans, elle traverse la mort. Voilà. Et donc le Seigneur, au terme de chacune de notre vie, il est la vie. Donc il veut la vie pour nous. Pas... montre en main, demain après-demain, vous savez, avec nos petites échelles de valeur. Ah oui, mais si dans une semaine elle n'est pas guérie, moi je ne crois plus en Dieu. Ah non, pas à notre échelle, mais à l'échelle de notre vie. Le Seigneur, il pense à l'échelle de nos 12 ans. Nos 12 ans, c'est toute notre vie. Il y a le développement, le court terme, il y a le développement durable, et puis il y a le développement éternel. Le Seigneur, c'est plus le développement éternel. Voilà, c'est le très long terme. Le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous, mais ce qui est bon pour nous ne veut pas dire que ça va se résoudre dans le très court terme. Ça veut dire qu'à l'échelle de notre vie, tout concourt au bien de ce que Dieu aime. Voilà, dans la foi, tout concourt au bien de ce que Dieu aime. Ce qui n'exclut pas l'incompréhension tout de suite. Je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je ne comprends pas le sens de ce qui m'arrive, de ce décès, de cette maladie, de cette crise familiale, de cette difficulté dans le travail, etc. Le Seigneur, voilà, il pense à l'échelle de nos 12 ans, à l'échelle de notre vie. Les 12 ans, c'est toute notre vie. Et oui, dans la foi, le Seigneur va me donner la vie éternelle. Mais c'est vrai que parfois, ça passe par des chemins un petit peu sinueux, dont je ne perçois pas toujours avec clarté l'issue. Tout concourt au bien de ce que Dieu aime. Voilà. Alors, peut-être ce qu'on peut retenir comme lumière de cet évangile, eh bien, c'est une invitation du Christ à nous abandonner, à lui remettre les commandes de notre vie. Voilà. Lui, il pense à l'échelle de nos 12 ans, de notre vie entière. Nous, nous pensons avec nos petites échelles de valeur, et ça suscite soit la crainte, soit l'agitation, souvent les deux qui sont liés. Demandons au Seigneur dans cette Eucharistie, eh bien, la foi, la grâce de la foi qui nous fait passer de l'incompréhension, je comprends pas, de la crainte, de questionnement, du raisonnement, au mystère. Le mystère, c'est pas tais-toi, tu comprendras plus tard. Le mystère, c'est ça me dépasse. Le Seigneur me permet de le comprendre un peu, mais ça me dépasse. Donc, comprends, oui. Mais ça dépasse largement ma petite intelligence. Passer de la souffrance, de la tristesse, au mystère. Ça n'exclut pas les pleurs, ça n'exclut pas les difficultés de la vie. Mais ça les resitue de façon beaucoup plus large dans le plan de Dieu. Je ne les vis plus tout seul, je les vis avec le Seigneur. Elles ne sont plus absurdes, sans sens. Mes souffrances ne sont plus insensées, mes difficultés ne sont plus insensées. L'expérience de la mort que je peux faire au quotidien n'est plus insensée, mais elle a un sens maintenant. Et c'est le Seigneur qui le donne, puisque c'est orienté vers la vie éternelle. Alors demandons cette grâce dans l'Eucharistie, puisque nous recevons le corps du Christ ressuscité à chaque communion, à chaque Eucharistie. Eh bien, c'est seulement en communion avec le Seigneur que nous pouvons rentrer dans ce regard de Dieu beaucoup plus large que notre petit regard. Amen.